Il est 18h, vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de Déshabillez-moi.
Des bougies et des crayons posés à terre en signe de deuil et de soutien. Des applaudissements pour l'hommage. Et ce message unique.
Nous sommes tous Charlie.
Ça me paraissait ce qu'il y avait de plus normal à faire, de venir crier avec les autres que moi aussi je suis Charlie et moi aussi j'ai eu mal.
Cette atteinte à la liberté d'expression est insoutenable. Est insoutenable.
Dans la foule, nombreux sont ceux qui ont grandi sous l'influence des quatre dessinateurs.
Cabu, Walensky, c'est toute l'équipe de Charlie Hebdo, je disais, dans les années 70. C'est extrêmement touchant, émouvant de savoir que ces hommes-là, qui étaient relativement âgés, sont disparus.
Un rassemblement aussi pour affirmer qu'ici, personne n'a peur.
Ça donne envie de bouger et de dire « ouais, on est là, quoi ». Même si t'as une calache, on est là, quoi, mec.
Se réunir tous ici, c'est... Manifester le fait que personne ne fléchira devant ce... C'est plus que de l'intimidation, hein. C'est une véritable menace.
Comme un symbole pour dire « Charlie n'est pas mort, vive Charlie ».
Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
Sandor Ferenczi, un disciple de Freud, définit le traumatisme de la façon suivante. Le choc est équivalent à l'anéantissement du sentiment de soi, de la capacité de résister, d'agir et de penser en vue de défendre le soi propre. Il se peut aussi que les organes qui assurent la préservation du soi abandonnent ou du moins réduisent leur fonction à l'extrême. Le mot « Erschütterung », commotion psychique, vient de chute, débris. Il englobe l'écroulement, la perte de sa forme propre et l'acceptation facile et sans résistance d'une forme octroyée à la manière d'un sac de farine. C'est pour sortir de cet état de choc que Déshabillez-moi a choisi ce soir de revenir sur l'attentat qui a frappé Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, ainsi que sur les différentes prises d'otages qui ont suivi l'attaque. La violence intervient là où les mots se trouvent chassés du champ de la signification. La violence saisit les hommes dans leur chair. La violence annihile toute tentative de pensée. Un arrêt du sens, encéphalogramme plat de la réflexion. Pour ne pas rester prisonnier de l'état de sidération dans lequel ces actes terroristes nous ont tous plongés, pour dépasser les réactions immédiates et essentiellement émotionnelles, Déshabillez-moi a choisi de remettre la pensée au travail. Tout d'abord, un bref rappel des faits. Le mercredi 7 janvier, aux alentours de midi, deux hommes armés font irruption dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Ils tuent 12 personnes, dont les dessinateurs Cabu, Sharp, Tinius et Walensky, ainsi que deux policiers. Les terroristes lancent des Allahu Akbar ainsi que des « On a tué Charlie, on a vengé le prophète ». Ils prennent la fuite. Le lendemain, près de Montrouge, une policière est assassinée par un tireur isolé. Vendredi 9 janvier, alors que les frères Kouachi sont retranchés dans une imprimerie de Seine-et-Marne, le tueur de Montrouge prend en otage une supérette cachère près de la porte de Vincennes. Après des heures haletantes, l'assaut est donné aussi bien en Seine-et-Marne que porte de Vincennes. Bilan, les trois terroristes, qui se connaissaient, ont été tués. Quatre personnes sont mortes dans l'hypercachère. Ces événements ont déclenché une vague de solidarité sans précédent. Sur les réseaux sociaux circulait en masse le message de soutien « Je suis Charlie ». De nombreux rassemblements ont eu lieu dans toute la France, mais aussi à l'étranger. Dérivé de « terror », étymon latin de « terreur » avec le suffixe « isme », le terme de terrorisme a été attesté pour la première fois en novembre 1794. Il désigne alors la doctrine des partisans de la terreur. Ne nous méprenons pas, le terrorisme lui-même n'est pas né avec l'islamisme radical. De tout temps et pour tout type de cause, des hommes et des femmes se sont arrogés le droit de faire usage de violence afin de faire valoir leurs revendications. Pensons par exemple à Action Directe ou encore à certains mouvements de libération, comme ceux qui sévissent en Corse ou au Pays Basque. Ce qui caractérise le fanatisme réside en ceci, que ses représentants considèrent leurs revendications comme résultant de vérités absolues qui ne doivent au grand jamais être soumises au doute. D'une certaine manière, le fanatisme, qu'il soit ou non religieux, présuppose un anéantissement de la pensée. Ce qui change néanmoins avec les attentats de Charlie Hebdo, et ce depuis le 11 septembre, c'est le traitement médiatique de l'info et les réactions que cela suscite dans la population. À grands coups de sensationnalisme, les médias donnent une toute autre dimension à ce type d'affaires. À l'ère de l'ultra-connectivité, Internet s'embrase vite, pour le meilleur et pour le pire. Comment les attentats terroristes sont-ils traités aujourd'hui? Comment ne pas tomber dans le piège du sensationnalisme? Ou encore, que peuvent nous apprendre les réactions de chacun à ce type d'événement sur la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir avec notre invité et avec Mélanie, bien sûr.
Et vous ?
Déshabillez-vous !
Alors Mélanie, je crois que tu as envie de débuter ce déshabillez-moi par la question des émotions collectives en sociologie. Donc je te laisse la parole.
Bah, c'est tout à fait ça, Anaïs. Bonjour Jérôme d'abord.
Bonjour.
Alors moi j'ai une question d'abord. C'est quand on commence à questionner cette question des émotions collectives en sociologie, vers quel auteur et vers quel concept on se tourne ?
Je crois que le premier, celui dont tout part, c'est Émile Durkheim, donc le fondateur de la sociologie, en tout cas en France. Et en fait, tout part de lui, de son étude de l'effervescence collective, les moments où une société se rassemble et où tous les individus sont pris par des courants d'émotions collectives qui les amènent à ressentir vraiment dans leur chair la solidarité, ce qui les unit, le lien social. Et donc depuis, il y a eu des travaux contemporains qui ont approfondi ça, Émile Durkheim au 19e siècle, donc l'ont appliqué aussi au 20e, au 21e siècle. Des travaux qui du coup vont vers la psychologie, la sociopsychologie, hein, je pense notamment aux travaux de Bernard Rimet, ou un sociologue américain très célèbre contemporain qui est Randall Collins, qui fait un peu la synthèse entre Émile Durkheim et Erwin Goffman sur aussi le rôle des émotions en interaction, ce qui se passe quand des gens se rassemblent, qu'est-ce qu'ils éprouvent, qu'est-ce qui fait que le rassemblement physique par exemple aussi peut accentuer les émotions qu'on ressent dans des sentiments, comme dans des moments comme ceux qu'on a vécu récemment avec les attentats.
D'accord. Cette question d'effervescence collective, comment on le définit ce concept ?
Comment on le définit ? Au départ, c'est un concept que Émile Durkheim propose dans ce qu'il appelle le livre s'appelle Les formes élémentaires de la vie religieuse. Et donc au départ, ça s'applique à... Il distingue les sociétés, au tout début dans sa thèse, dans un autre ouvrage qui est Division du travail social, il distingue sociétés à solidarité mécanique et sociétés à solidarité organique. Et l'effervescence collective, donc il observe d'abord une société dite traditionnelle, pas moderne, à solidarité mécanique, société en fait donc, sur laquelle il a travaillé, sur laquelle il y a des informations, il n'y est pas allé lui-même, mais il y a des documents qui lui permettent d'en parler, qui sont les sociétés d'arborigènes en Australie. Et ces moments d'effervescence collective, donc, ce sont des moments où le sentiment du « nous » prime sur le sentiment du jeu, où les individus vraiment s'oublient, se rassemblent autour de symboles qui incarnent le nous, qui incarnent le collectif, donc des totems, ce qu'il appelle des totems, et ce sont donc pour lui des grands moments religieux. Et donc on pourrait avoir des interprétations qui consistent à dire que ce qu'on a vécu là, les 4 millions de gens dans la rue, la réaction en un sens, ce sont des moments très religieux, mais au sens étymologique du terme, religuer, les gens se relient entre eux, se rassemblent, et c'est quelque chose de très religieux. Et donc ça, l'effervescence collective au départ, c'est un terme qui est vraiment très propre à des sociétés à solidarité mécanique. Mécanique au sens où il y a quelque chose d'automatique, qui fait que quand on attaque la société, chaque membre de la société se sent concerné, touché en sa propre chair, et du coup, malgré les différences qu'il pourrait y avoir, tout le monde réagit à l'unisson, voilà, porté par cette émotion-là.
L'autre question que je me posais, c'est celle de la posture du philosophe. Donc là, vous réfléchissez, vous, à ces questions-là, à ces questions d'émotion, etc. Comment on peut y réfléchir tout en étant un peu plongé à l'intérieur ? Est-ce que vous, pour vous, par exemple, ça a été compliqué de faire un peu d'objectiver un peu tout ce qui s'est passé, tous ces événements ?
Moi, en fait, j'ai abordé ça assez rapidement en sociologue, en fait, comme des journalistes, comme des universitaires peuvent avoir des réflexes professionnels. Mmh. Il se trouve que moi, ayant travaillé sur les réactions aux attentats du 11 septembre 2001, du 11 mars 2004 à Madrid et du 7 juillet 2005 à Londres, ayant travaillé pendant 8 ans là-dessus, ce que j'ai vu début du mois de janvier en France m'a évidemment beaucoup fait écho directement à mon travail. Et donc c'est vrai que, à mon sens, il y a un écart. Hein. On le voit bien d'ailleurs dans les réactions au 11 septembre. On le vit d'abord comme un être humain. On le voit bien les réactions au 11 septembre parce que j'ai en tête les réactions à la radio ou à la télévision des journalistes qui suivent les événements en direct et qui savent pas comment analyser, que dire à leurs auditeurs, aux téléspectateurs. Qui d'abord réagissent comme des humains, comme n'importe qui.
Choqués,
la stupéfaction, la sidération, des fois des mots qui leur échappent du type « Oh my God » pour des Américains. Bon, voilà. Et donc l'effort qui est fait par chacun d'eux en direct pour essayer de rendre intelligibles les choses, être prudent, interpréter correctement, etc. Bon. Les intellectuels ont le privilège d'être un peu plus en retrait pour pouvoir faire ce travail-là. Et bon, il est vrai aussi qu'on vit une époque où il y a une hyper-sollicitation des intellectuels. Et pour ma part, c'est vrai que je trouve un peu navrant la manière dont des fois certains, notamment du coup philosophes, philosophes notamment médiatiques qui donnent un peu leur avis sur tout, se précipitent un petit peu dans la réaction, à commencer à faire des analogies sans se fonder sur du travail empirique. Moi, mon regard, c'est un regard de sociologue qui implique d'abord d'aller voir les matériaux, d'aller voir ce que font les gens, ce qu'ils disent, et de comparer ça avec d'autres traces empiriques qu'on peut avoir, d'autres événements similaires. Et c'est vrai que du coup, j'ai en tête par exemple Michel Onfray qui, quelques heures après, le jour même peut-être de l'attentat de Charlie Hebdo ou le lendemain, dit voilà, c'est un 11 septembre, tweet, voilà, un philosophe qui tweet, c'est un 11 septembre, c'est le 11 septembre français. Il n'est pas le seul à avoir fait cette analogie-là. Mais je ne sais pas si c'est le rôle d'un philosophe que de la faire, et je ne pense pas que ça apporte beaucoup, que ça apporte grand chose à l'intelligence de la situation en fait.
Votre rôle, ce serait donc de prendre un peu de recul, d'attendre un peu que ça se tasse, de pouvoir avoir une analyse, réfléchir et ensuite peut-être partager votre avis dans les médias.
Exactement.
D'accord. Et cette analogie avec le 11 septembre français, on peut y revenir comme ça, on est débarrassé de cette question.
Ouais, bien sûr.
Est-ce qu'on peut la faire ou est-ce qu'on ne peut pas la faire?
Et ça dépend sous quel angle on veut la faire. Déjà, ce qui est assez frappant, c'est qu'on l'a fait, cette analogie avec le 11 septembre, depuis 15 ans que le 11 septembre a eu lieu, on l'a fait de manière systématique. Aux États-Unis, évidemment, on ne l'a fait pas. Le 11 septembre, c'est le 11 septembre, ça reste un événement unique. Mais en Europe, il faut voir à quel point elle confine à l'obsession, cette analogie. On l'a fait pour des événements qui n'ont absolument rien à voir avec des attentats terroristes, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé des gens pour comparer la crise de 2008-2009 à 11 septembre, par exemple, 11 septembre. D'accord. De la finance. Des gens, 2004, le tsunami, c'était déjà 11 septembre écologique. La mort de Michael Jackson, je me souviens d'un article dans 20 minutes, c'était 11 septembre de la pop culture, exactement. Moi, j'ai pris des paris pour dire que la mort de Johnny Hallyday serait 11 septembre de la chanson française, par exemple. et donc, c'est déjà vrai pour beaucoup d'événements comme ça qui peuvent ne rien avoir. Et pour les attentats, du coup, a fortiori. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on l'oublie, en fait. Par exemple, les attentats du 11 mars 2004 à Madrid, qui restent les pires qui ont eu lieu en Europe, hein, 191 morts, ont été immédiatement qualifiés de 11 septembre espagnol en Espagne et de 11 septembre européen dans la presse française, par exemple, mais pas seulement. Et par pas uniquement par les journalistes, aussi par les pouvoirs publics, les hommes politiques, les représentants européens, il a été vraiment vécu comme tel. Le 11 mars a été institué par le jour même par le Parlement européen, et ça a été repris ensuite par le Conseil et par la Commission. Voilà, c'est le 11 mars, c'est la journée européenne des victimes du terrorisme. Et là, 10 ans après, parce que ça fait 10 ans maintenant, juste avant que ne surviennent les attentats Charlie Hebdo, Hyper Cacher, etc., on voyait dans la presse, étant donné l'inquiétude autour des djihadistes français, leur retour, etc., des experts, des universitaires pour dire on peut redouter un 11 septembre européen. Le 11 septembre européen, il a déjà eu lieu il y a 10 ans et on l'a complètement oublié. Et là, donc, on a par exemple le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone et d'autres, qui, après l'attentat Charlie Hebdo, disent c'est un 11 septembre européen. Bon. Donc ça, c'est assez frappant, ce temps cyclique dans lequel on est entré. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on fait l'analogie avec le 11 septembre? Ben, je pense que c'est assez clair, c'est ce sentiment qu'on vient d'événements historiques, qu'il y a un avant, il y a un après, en fait, ça renvoie avant tout, je pense, à un critère émotionnel.
Oui.
Quel que soit le sujet, du coup, que ce soit la mort de Michael Jackson, la crise financière ou autre, ça renvoie au fait qu'il y a la stupéfaction, la sidération, l'angoisse, etc.
Cette idée aussi que c'est forcément quelque chose qui va arrêter le temps à intenter, on va se dire, voilà. Je me souviens de ce que j'étais en train de faire.
Ce sentiment qu'on vit l'histoire en direct, que ça va faire comme un flash, sauf que je pense pas que tout le monde ait un flash pour la mort de Michael Jackson ou pour la crise financière, parce que la crise financière, c'est pas un événement comme ça qu'on peut dater précisément. Et puis par exemple, le 11 mars 2004, bon, septembre européen, mais la plupart des gens l'ont oublié, en dehors de l'Espagne. Bon. Donc ce qui en fait reste avant tout, c'est ce sentiment d'une obsession, en fait. Voilà, fascination pour le 11 septembre, et ça revient tout le temps. Et la mesure, à mon avis, qui font l'analogie dans la tête de ceux qui la font, c'est ce sentiment d'un choc. Bon. Mais en fait, au bout du compte, ça nous dit absolument rien sur ce qui restera à long terme de l'événement. Sur sa portée historique, tout ça. Parce que, évidemment, les gens qui critiquent l'analogie, et à raison, disent que sur un plan strictement factuel, et on pourrait détailler autant qu'on veut, les événements n'ont rien à voir. Le nombre de morts n'ont rien à voir, le procédé opératoire n'a rien à voir. Bon voilà, pour dire les choses simplement, le 11 septembre, c'est presque 3000 morts, c'est des avions détournés qui frappent à l'aveugle des civils innocents dans des tours. Là, pour ne parler que de l'attentat à Charlie Hebdo, c'est 17 personnes, enfin Charlie Hebdo, l'hypercachère et la policière tuée à Montrouge, c'est 17 personnes en tout, et qui sont pas tués à l'aveugle, qui sont précisément ciblés pour certaines raisons. Ils sont juifs, ils sont policiers, c'est Charlie Hebdo. Donc rien que de ce point de vue-là, on ne peut pas comparer les événements.
D'accord. Sur cette question des émotions collectives, on parle d'événements traumatisants, donc négatifs. Il y a aussi des émotions collectives qui peuvent être créées par un élément positif.
Bien sûr.
Ouais. Par exemple, j'imagine la coupe du monde, par exemple en 98, où des millions de Français sont descendus dans les rues. Comment on peut faire le lien entre ces deux événements et ces émotions collectives? Est-ce qu'on arrive à tirer un pont entre ces deux types d'événements ou pas du tout?
Mais ce qui fait le lien, il a, le lien a été fait de deux manières, en fait. Déjà par le simple critère de la masse de personnes qui sont descendues dans la rue, alors, pour manifester leur émotion, leur solidarité. Voilà, on dit 4 millions dans les rues, ça rappelle, à Paris, on n'a pas vu autant de monde depuis 98. Ouais. Et puis, si on remonte plus loin, depuis la libération, bon, voilà. Et donc ça, c'est une première manière de faire le lien. Après, l'autre lien qui a été fait là, c'est le sentiment, du coup, que ces manifestations de solidarité ont traduit une unité nationale. Et donc, il y aurait l'unité nationale dans le deuil, l'unité nationale dans la célébration, dans la victoire. Bon. Et là, évidemment, on peut remonter à Ernest Renan, qui donc explique que voilà, la nation, c'est avant tout quelque chose qui se fait dans les têtes, c'est le plébiscite de tous les jours, et que s'agissant donc comme ça dans les têtes de forger ce sentiment que l'ensemble des 66 millions de personnes, 68 millions de personnes qui vivent en France appartiennent à un même collectif, bah pour ça, disait Renan, les deuils valent mieux que les triomphes. En tant que souvenirs nationaux, le deuil, ça marque plus que le triomphe. Et, sauf que donc là, pour Charlie Hebdo, c'est ce qu'on a vécu, effectivement, comme les Américains pour le 11 septembre, toutes choses étant égales par ailleurs, un deuil qui marque, qui émeut les gens, qui font qu'ils se sentent appartenir ensemble et qui font du coup, ils manifestent leur solidarité, leur réprobation face à l'événement. Mais en même temps, il faut se souvenir que c'est la première fois qu'on voit une réponse de telle ampleur pour un attentat en France. Dans les années 90, on a une vague d'attentats dans les années 94, 95, 96, à Saint-Michel, à Port-Royal, où on a déjà beaucoup de morts. Si on additionne le nombre de morts à Saint-Michel, le nombre de morts à Port-Royal, on obtient le nombre de morts là pour Charlie Hebdo 17. Il n'y avait pas ce genre de manifestation. Dans les années 90, ce qui ont fait se rassembler les gens, c'était une victoire. C'était la victoire Coupe du Monde 98. Donc là encore, la comparaison est assez instructive parce que dans un cas c'est une victoire, les attentats ne rassemblent pas les gens, suscitent pas la réprobation, et là, dans un contexte qui est différent, qui est je pense justement le contexte du post-11 septembre, cette fois-ci, la victoire de handball n'a pas rassemblé dans la rue autant de gens que voilà, les attentats de Charlie Hebdo il y a trois semaines. In the year 2016, I'll be floating far into dreams. Dreams I have of good lives not lived. Stars in my thoughts are now fading. Nightmares merged with fantasy blood. Changes in the weather. Space doesn't reason with the sun. Turn on
C'était Odyssey and Orkel avec le titre 2016.
Déshabillez-moi.
Donc je vais repasser la parole à Mélanie pour entamer la deuxième partie de cet entretien avec notre invité.
Alors on va d'abord écouter un petit extrait d'un morceau de musique qui a fait le tour des réseaux sociaux et du monde apparemment. Enfin, c'est toute une question, c'est la question qu'on va se poser d'ailleurs. Est-ce que vraiment cet événement a marqué le monde entier? En tout cas, il y a 3 500 000 vues sur YouTube. On l'écoute tout de suite.
Extrémiste, viens descendre nos journalistes. Crois-tu passer pour un croisé en butant nos gardiens de la paix? Penses-tu vraiment avoir des couilles quand c'est ton frère que tu zigouilles pendant qu'à terre il t'implorait? C'est bon, chef, j'en ai eu assez. Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits.
Bon, pas la peine de l'écouter jusqu'au bout, on a bien compris le message. Il a repris une chanson de Renaud, comment elle s'appelle ?
Hexagone,
voilà, en plus Hexagone forcément. Donc pour voilà, parler de ces attentats. Ce qui est intéressant, c'est surtout la diffusion sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Quel poids ont eu les réseaux sociaux sur un tel événement ? Est-ce que ça a changé quelque chose, l'existence des réseaux sociaux, sur la création d'une émotion collective ?
Sur la création de l'émotion collective en soi, je pense pas. Par contre, je pense que les réseaux sociaux ont eu deux rôles. Le premier, c'est d'avoir permis aux gens de plus rapidement se rassembler en place publique et de plus rapidement faire masse, en fait. Le soir même de l'attentat Charlie Hebdo, les gens se rassemblent pas seulement à Place de la République, mais dans plusieurs places, dans plusieurs villes de France. Et ça, après les attentats du 11 mars ou du 7 juillet 2005 à Londres, donc c'est le 11 mars 2004 à Madrid, après le 11 septembre, pas directement le 11 septembre, mais le week-end qui suit, déjà, des gens manifestent, se rassemblent, mais sauf qu'ils se rassemblent en différents endroits, en fait. Après le 11 mars 2004, par exemple, sur lequel j'ai particulièrement travaillé, dans beaucoup de villes de France, à Paris, mais pas seulement, en province aussi, et ailleurs, il y a des manifestations qui sont organisées, mais comme il n'y a pas les réseaux sociaux pour se coordonner, les appels sont lancés, ils circulent dans différents canaux, et du coup, on se retrouve avec des personnes qui se rassemblent par centaines à un endroit ou à un autre, certains devant l'ambassade, par exemple, devant une place principale. Donc, du coup, on n'a pas l'effet de masse qu'on a pu avoir là, le soir même de l'attentat à Charlie Hebdo. Et l'autre effet, c'est que ça rend visible plus directement le fait que les gens se sentent concernés en large partie par ces événements à la première personne. Ça, c'est très intéressant, parce que moi, c'est des choses que j'ai pu voir dans, avant les réseaux sociaux, au moment des attentats du 11 mars 2004, du 11 septembre aussi, dans les courriers que les gens pouvaient envoyer aux ambassades, aux journaux, sur les forums internet, puisqu'il y avait déjà des forums à l'époque. Mais on a l'impression que dans ces moments-là, c'est un grand sentiment du nous qui s'exprime, que tout le monde se sent porté, justement, comme grosso modo les aborigènes d'Australie qui décrivaient Durkheim, où voilà, chacun s'oublierait, pris par le sentiment du nous, nous français, nous républicains, etc. Mais en fait, on comprend pas l'événement si on comprend pas que beaucoup de gens se sentent aussi concernés à la première personne du singulier, avec ce sentiment qu'ils sont plus proches de l'événement que d'autres, qu'ils ont des raisons qui leur sont propres de se sentir concernés. Et ce qui, là, du coup, s'est traduit par le fait que tout de suite, avant même que les médias s'emparent de l'événement, commencent à faire des grands titres, avant même que Libération publie Nous sommes tous Charlie, ben, on avait déjà tourné en masse depuis des heures sur les réseaux sociaux le 7 janvier, Je suis Charlie.
Et le Je suis Charlie qui
voilà, le Je suis Charlie. Parce que ça part d'un individu, directeur artistique de la revue Stylist, qui, en son nom propre, crée ce truc, Je suis Charlie, le poste, et ça correspond à ce que ressentent beaucoup d'autres. Et là, de manière virale, circule Je suis Charlie, parce que ça correspond à ce que des gens ressentent à la première personne. Et là, du coup, c'est la première fois qu'on l'a vraiment vu. En soi, ça crée rien de nouveau, juste ça le montre. C'était déjà comme ça que les gens, à mon avis, l'éprouvaient avant. Chacun s'en concernait à la première personne. Et là, on a l'agrégation des Je suis Charlie qui aboutit à vraiment rendre manifeste le nous. Mais après, du coup, quand les journaux disent Nous sommes Charlie, disent Nous sommes tous Charlie, bah, ça sert plus à grand chose, parce que ce qui est devenu le mot d'ordre, ce qui est là, ce qui est la première mention, c'est Je suis Charlie.
Anaïs ?
Oui, est-ce qu'il n'y a pas une exacerbation des émotions via les réseaux sociaux, justement, parce que les réseaux sociaux permettent une réaction instantanée ? Est-ce que ça n'amplifie pas un peu les phénomènes ?
Là, ce qui a été assez flagrant, c'est la première fois, là, pour le coup, ça crée une nouveauté, c'est dans la médiatisation même de l'événement, en fait. La vidéo peut-être la plus choquante de l'attentat, qui a du coup peut-être provoqué le plus d'émotions, c'est celle de, où on voit le policier Ahmed se faire abattre à bout portant, et cette vidéo qui est filmée par un riverain depuis son appartement avec son téléphone portable, je crois. Ce riverain, il se trouve voilà, avec cette vidéo, il est seul chez lui, il sait pas quoi faire, il est un peu paniqué, il a eu les terroristes qui sont passés sous ses fenêtres, il a vu les terroristes tirer sur un policier sous ses fenêtres, il poste la vidéo sur Facebook. Apparemment, c'était un ingénieur anglo-saxon, je crois, bon, travaillant actuellement en France, donc voilà, pas trop de... Il savait pas qu'il le dit lui-même, après il l'a regretté, il l'a posté sur Facebook, publiquement. Il allait le retirer une heure après, mais c'est, le mal était déjà fait, entre guillemets. La vidéo voilà, circulait partout. Et lui-même dit, voilà, je l'ai fait parce que j'avais besoin d'échanger, de communiquer. Il n'a pas eu le réflexe de prendre le téléphone, il ne savait pas qui appeler. Il avait les réseaux sociaux. Et là, du coup, ça a eu un impact direct sur le fait qu'il avait déjà retiré la vidéo. Et la vidéo, à ce moment-là, elle était déjà sur BFM TV, iTélé, etc. Donc, et là, je pense que ça a eu un impact sur les émotions, du coup, parce qu'il n'y aurait pas eu cette image-là. Peut-être que des gens auraient moins été scandalisés, horrifiés. Peut-être que l'événement aurait eu un peu moins d'ampleur, un peu moins.
Comment ça se passe au niveau des acteurs de l'acte terroriste? Ils savent très bien pertinemment que l'émotion qu'un tel événement va créer. Est-ce que du coup, vous n'êtes pas terroriste, vous n'êtes pas vous-même, mais donc peut-être que vous n'avez pas vraiment la réponse à ça, mais est-ce que du coup c'est pris en compte? Est-ce qu'on se dit, moi je vais faire ça et du coup on va forcément, ça va créer quelque chose, ça va créer une émotion, et comment ils l'introduisent en fait dans leurs actions, comment ils l'intègrent dans leurs actions?
Disons que depuis le 11 septembre, en tout cas, il y a toujours, là pour les théories, je crois que aujourd'hui, la plupart des terroristes, a fortiori islamistes, ont cette idée du 11 septembre en tête qui a vraiment fait rentrer le terrorisme dans une autre ère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, et en particulier les jeunes, qui n'ont pas vraiment connu l'avant 11 septembre, on va dire, terrorisme est synonyme de voilà, c'est du 11 septembre, grosso modo. Ouais. Et le 11 septembre, c'est avant tout un événement spectaculaire, entre guillemets. Depuis, on n'a pas fait mieux pour ça. Vécu en direct pendant des heures, c'est-à-dire que les télévisions prennent l'antenne quand une tour est en feu, et du coup, on voit en direct l'autre avion s'encastrer dans la deuxième tour, etc. Bon. Et cette dimension spectaculaire, bon. Il y a toujours eu dans le terrorisme la volonté de terroriser les populations, donc de toucher au-delà de ceux qui sont directement frappés et visés. Déjà chez les anarchistes au 19e siècle, la propagande par le fait, c'est ça. C'est on frappe n'importe où, c'est spectaculaire. Ça, les médias à la même époque qui se mettent en place, la presse amplifie l'écho de l'événement qui n'est pas simplement localisé, qui du coup va terroriser des gens alentours qui se disent « Ah mon Dieu, s'ils frappent dans les cafés, moi je ne suis plus en sécurité dans un café. » Mais là, avec les médias, il est clair que la plupart des terroristes aujourd'hui ont, quelque part, donc, je pense, dans l'espoir de non simplement faire des morts et frapper, mais aussi voilà, d'avoir cet écho médiatique. J'ai en souvenir les terroristes en 2008 à Bombay qui revendiquaient explicitement, quand ils ont fait leur prise d'otage dans un palace, de faire un septembre indien. Là, c'était eux qui portaient l'analogie. Ils étaient là, ils voulaient faire quelque chose d'aussi spectaculaire qui serait vécu en direct sur les télés du monde entier, sur CNN, etc. Et là, bon, quand on voit les terroristes qui ont tous des GoPro avec eux, on voit bien qu'il y a cette logique de il y a un spectacle. En même temps, on fait un spectacle, il faut qu'il y ait les images, etc. La mise en scène, elle est évidente, comme dans les vidéos de Daesh, par exemple.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une sorte de terrorisme 2.0 où, effectivement, on joue avec les codes du réseau social.
Oui, bien entendu.
Qu'est-ce qui se partage le mieux? Qu'est-ce qui va être le plus
viral? Exactement, parce qu'il y a de la propagande en même temps. Le terrorisme est une forme de propagande. Et donc, est un spectacle.
Il y a un message à faire passer. Est-ce que du coup on peut parler d'une sorte de construction de l'émotion collective qui est en même temps construite par les terroristes, parce que c'est eux qui tirent les ficelles, et de l'autre côté une construction par le peuple ou par le politique? Comment tout ça s'entremêle?
C'est assez compliqué de le démêler, dans la mesure où les individus qui réagissent, les terroristes aussi, enfin, nous sommes tous, en tant qu'être humain, être sociaux, socialisés, en fait. Donc, il faut se déprendre d'une conception où les émotions seraient quelque chose de naturel, en fait. Les émotions, elles sont à la fois spontanées, si on veut, et socialisées, construites socialement. Et donc, on ne peut pas vraiment défaire... je ne pense pas qu'on puisse dire voilà, qu'il y a une manipulation des individus par les médias qui accentuerait le pathos, etc. On vit dans un monde médiatique, les médias font partie de notre environnement, et donc les médias, les réseaux sociaux, l'entourage, etc., contribuent à faire qu'on ressent des émotions de manière spontanée, qu'on vit comme étant spontanée. Mais par exemple, pour parler de quelque chose de très concret, est-ce qu'on peut dire que les gens sont émus face à l'événement, et pour cette raison manifestent leur solidarité sur Facebook ou vont à une manifestation? Ou est-ce que c'est parce qu'ils voient tout plein de leurs camarades sur Facebook, de leurs amis sur Facebook, de leurs connaissances sur Facebook qui sont solidaires, qu'eux-mêmes commencent à se sentir plus concernés, donc plus émus? Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent des gens qui vont à la manif, qui disent « bon, bah d'accord, je vais y aller avec eux », et est-ce que c'est une fois à la manif qu'ils se sentent plus émus? On peut pas faire la part des choses. La plupart des gens, au bout du compte, pourraient pas eux-mêmes le dire. Ce qui est intéressant, c'est que certains, par contre, du coup, a posteriori, se sentent étonnés, se disent « et pourquoi est-ce que je suis aussi ému au bout du compte? Qu'est-ce qui m'arrive, en fait ?»
Pourquoi je chante la Marseillaise alors que
exactement,
ça ne
viendrait pas à l'idée? Je suis en pleurs, là pourquoi je suis à République en pleurs, alors que bon ok, j'ai lu Charlie Hebdo une fois ou deux dans ma vie, puis j'étais pas non plus abonné, je connais personne là-bas, je suis pas journaliste, qu'est-ce qui m'arrive concrètement?
D'ailleurs vous avez amené un texte, un petit extrait, enfin non d'ailleurs pas un extrait mais un témoignage sur Facebook, est-ce que vous pouvez nous le lire, nous présenter?
Oui. Alors c'est un texte publié par un étudiant Erasmus à Madrid, qui participe à au rassemblement spontané face à l'ambassade de France à Madrid.
D'accord.
Le 7 janvier au soir. Et en rentrant de la manifestation, il écrit ça sur Facebook. Il dit « Au fond, je n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi, parce que je n'avais pas de famille qui travaillait à Charlie Hebdo, ni même des amis. Mais au moment du rassemblement à Madrid, les Français ont tous chanté « Encore la Marseillaise ». Et là, sans savoir pourquoi, une larme a coulé le long de ma joue. Et puis, j'ai découvert que d'autres personnes pleuraient également. Je doute qu'elles aussi avaient de la famille sur place. Mais on est en quelque sorte tous frappés par un tel événement. Une sorte d'émotion, la fierté d'être Français, et la haine envers le terrorisme qui continue de sévir, et l'envie de ne pas se laisser marcher dessus, que certaines personnes se permettent de marcher sur nos droits. Je suis Charlie, on est tous un peu Charlie, liberté d'expression, point d'exclamation, et après il passe à l'espagnol, no tenemos miedo, todos somos Charlie, sin periodismo no hay democracia. Donc sans journalisme, il n'y a pas de démocratie.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce texte ?
Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a rappelé beaucoup de messages que j'ai pu lire après le 11 septembre, le 11 mars, ou encore une fois le 7 juillet 2005, les attentats de Londres. Ces gens qui, bien souvent, en fait, alors en l'occurrence, dans les messages que j'avais lus, s'adressaient aux victimes pour exprimer aux victimes leur soutien, leur solidarité, leur émotion. Et souvent, ça se traduisait par des messages comme ça, à la première personne du singulier. Il pouvait y avoir des messages aussi, slogans du type voilà, je suis français, en tant que français, nous sommes tous solidaires, nous sommes tous avec vous, nous sommes tous new-yorkais par exemple. Mais il y avait en même temps ces messages à la première personne du singulier, où la personne dit mais en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi je suis si ému, je vous connais pas, je ne connais personne à New York, personne dans les tours du World Trade Center, mais ce qui fait que je me sens touché, c'est que par exemple, pour moi, le World Trade Center, ça incarnait telle chose. Je suis fan des films américains, ou je suis fan de jazz, donc pour moi, le New York, ça incarne ça, et du coup, quand je vois ce qui se passe, ça me touche, même si je ne connais pas New York personnellement. Bon. Et là, on a la même chose. On a quelqu'un qui revient d'une manifestation et qui dit « Mais au fond, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis aussi ému. » On vit dans une société qui est individualiste. Et donc, voilà, on serait chez les aborigènes d'Australie, un attentat qui frappe la société française, on pourrait se dire « Oui, je suis français, ça frappe les Français, forcément, je suis concerné. » Non, les gens réagissent en se disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Ok, il y a un attentat qui frappe la France. » Mais pourquoi est-ce que je le prends autant à cœur ? Ça ne frappe pas ma famille, je ne suis pas journaliste, je ne connais personne à Charlie Hebdo, donc au fond, pourquoi est-ce que je sois concerné, d'accord ? Mais à ce point-là, à plus pouvoir travailler, aller à une manifestation, me mettre à pleurer, qu'est-ce qui se passe ? Et là, ce qu'exprime bien cet étudiant, c'est qu'en fait, une fois sur place, dans le rassemblement, dans la tension que ça suscite, le fait d'être ensemble, etc., ben, y a un sentiment d'appartenance qui prend conscience, en fait. Et voilà, je pense qu'on se tromperait complètement en disant que ce jeune garçon est un nationaliste qui vote le Front National.
Bien sûr,
ouais. Voilà. Non, voilà, c'est aussi important. Il est à l'étranger, donc on sait que le fait d'être à l'étranger peut exacerber ce sentiment de prise de conscience de ce qu'on est, de son identité nationale, de ce sentiment d'appartenance. Il est en Espagne, donc voilà. En plus, il est à un âge où ce genre d'expérience peut être assez frappante. Donc, il prend conscience du fait qu'il est un citoyen français, bon, etc. De ce que ça implique, le fait d'avoir grandi en France et désormais de vivre en Espagne. Mais voilà, il dit je vois des gens qui chantent la Marseillaise et pour la première fois de ma vie, ça me fait vibrer, grosso modo. Je vois ces gens qui pleurent et du coup, moi, je pleure aussi, on pleure ensemble. Et c'est très difficile, du coup, de faire la part des choses, de qui a pleuré le premier, grosso modo. Est-ce qu'il s'est mis à pleurer parce qu'il a vu les autres qui pleuraient ? Bon, c'est le fait d'être ensemble, le fait d'être ému qui génère cette tension, qui fait qu'il y a de l'émotion et qui fait qu'on se met à pleurer. Et que du coup, on se dit mais pourquoi est-ce que je suis touché à ce point-là au bout du compte ? Ce qui fait qu'on est touché à ce point-là, c'est qu'il se rend compte que ben voilà, cet événement, au-delà du fait qu'il a touché les gens qu'il ne connaît pas, il touche aussi à des symboles, à des choses qui sont importantes pour lui. Il se rend compte dans cet instant-là qu'elles sont importantes pour lui.
Par exemple, la liberté d'expression.
Par exemple, la liberté d'expression, et pas la liberté d'expression en soi comme étant un truc abstrait, mais la liberté d'expression en tant qu'elle lui apparaît être un fondement de la société dans laquelle il a grandi, une démocratie, la République française. Et donc c'est intéressant de voir qu'à aucun moment il dit nous sommes Charlie. Il dit voilà, je suis Charlie, il dit on est tous un peu Charlie. Il est très prudent dans la généralisation. Il dit voilà, on est en quelque sorte tous frappés par un événement. On est en quelque sorte, il module à chaque fois. Donc il dit bien voilà, moi je me sens concerné, moi je suis Charlie, moi je suis ému, j'ai pleuré. Et j'ai ce sentiment qu'on est en quelque sorte tous frappés, qu'on est tous un peu Charlie, mais il dit pas nous sommes tous Charlie.
Mais il y a quelque chose d'étonnant quand même dans cet événement, c'est que finalement un symbole qui est plutôt un symbole, c'est quelque chose de désincarné, d'éventuellement froid, et ben ce symbole là est capable de générer une émotion qui est un sentiment lié à l'affect. Pourtant les symboles sont souvent dénués d'affect. Donc, comment on peut l'expliquer?
Et justement dans ces situations là les symboles se chargent d'affect, en fait. On a besoin de symboles en fait pour symboliser la solidarité. On a besoin d'exprimer ce qu'on ressent, de montrer qu'on est ensemble. L'attentat, faut vraiment le comprendre comme une épreuve. Il met à l'épreuve la société au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on teste est-ce qu'on est solidaire ou pas, d'où les débats qu'on voit ensuite. Est-ce qu'on est vraiment solidaire, est-ce qu'il y en a pas qui sont du côté des terroristes. Bon. Donc c'est vraiment une mise à l'épreuve de la société, donc ça angoisse pour ça. Et donc, on a besoin de montrer qu'on est solidaire, qu'on se rassemble, et pour ça, on a besoin de symboles. Après, le 11 septembre, ce qui fait office de symbole, c'est le drapeau américain. Et c'est pareil, ça ne veut pas dire qu'on a tout d'un coup des millions de gens qui se découvrent des nationalistes. Il y a des gens qui disent tout simplement, avec des convictions de gauche progressistes, qu'ils ont compris ce jour-là ce que c'était qu'être américain. Et donc, l'équivalent du « Je suis Charlie » pour les Américains en 2001, ben, c'est le drapeau. Ils se mettent tous à afficher un petit drapeau sur le revers de leur veste, sur les capots des voitures, sur les fenêtres des maisons. Mais ce qu'ont montré les sociologues, c'est que les gens qui sont sociologiquement considérés comme étant les plus nationalistes aux États-Unis, c'est les fermiers dans le Texas, l'Arkansas, etc. Bah, eux, leur ferme, ils n'avaient pas mis de drapeau. Pourquoi ? Mais parce qu'ils sont au milieu du désert, dans leur champ, etc. Il n'y a personne pour les voir, les drapeaux. Afficher le symbole, ça a du sens, il y a des gens pour les voir. Donc c'est à New York qu'on en a vu le plus, au bout du compte. New York, parce qu'elle est frappée, mais aussi New York, ville de gauche. A priori, on se balade aujourd'hui dans Soho ou dans Greenwich Village, on n'est pas en plein milieu des nationalistes, il n'y a pas les drapeaux américains partout. Au moment du 11 septembre, oui, parce que d'ailleurs, ce qui a pu choquer certaines personnes. Bon. Là, ce qui fait office de symbole, du coup, ça a été le « Je suis Charlie », et pour certaines personnes, le drapeau français, mais pas tous, parce que du coup, il y a une ambiguïté, le rapport au drapeau français n'est pas le même que le rapport au drapeau américain aux États-Unis, évidemment, et la Marseillaise. Mais du coup, il y a des débats sur les symboles. Voilà. Il y a des débats sur les symboles. Est-ce qu'on a le droit de chanter la Marseillaise à une manifestation mode au dessinateur de Charlie Hebdo? Est-ce que c'est pertinent de sortir le drapeau français? Et même, est-ce que c'est pertinent de dire « je suis Charlie » Est-ce qu'on n'est pas Charlie et aussi d'autres choses? Bon. Alors, on a besoin de symboles, on se rassemble autour, et en même temps, il y a tout de suite, presque immédiatement, un débat autour des symboles, de leur pertinence. Est-ce que c'est les bons symboles?
Avec la chanson Neptune.
Déshabille moi.
Donc alors Mélanie, on questionne toujours les émotions collectives. Je te laisserai reprendre la parole.
On vous a beaucoup entendu parler du jeu, de l'individu. Alors, ça a toujours été un peu filigrane. Est-ce qu'on peut revenir sur cette question? Où est-ce que se situe finalement l'individu dans cette émotion collective?
Et en fait, je crois que l'émotion collective, il faut la comprendre comme étant un courant. Que chacun, enfin, on vit dans des sociétés qui sont en fait individualisé, chacun est conscient du fait qu'il est un individu singulier avec son corps, son cerveau, ses idées, son nom, son prénom, son visage, etc. On est tous très conscients de notre singularité. Et donc ce courant d'émotions collectives, qui c'est qu'il ressent ? Ce sont les individus. Et donc, quand on est traversé par le courant, chacun ressent ses émotions pour lui-même, et donc se demande, comme on l'a vu dans ce témoignage-là, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi est-ce que je ressens les choses de manière aussi intense ? Et donc c'est là où, même quand on est dans ce sentiment que nous sommes tous américains, nous sommes tous madrilènes, nous sommes tous Charlie, chacun se dit, mais dans quelle mesure est-ce que je le suis vraiment, moi ? D'accord, c'est un mot d'ordre comme ça général qui nous explique dans quel état il faut se sentir, parce que voilà, on est en France, on est en Occident, mais après, voilà, je suis encore libre en mon âme et conscience de dire que je me sens ou pas Charlie, ou pas madrilène, ou plus ou moins. Et donc c'est là où se situe le jeu, c'est-à-dire que du coup, là, ce qu'on voit vraiment, c'est que finalement, beaucoup de gens vivent directement la réaction à la première personne du singulier, vivent directement le jeu, se disent, voilà, je sais pas ce que sont les autres, moi en tout cas, je suis Charlie. Je suis Charlie parce que, bon, peut-être je me sens français, je me sens républicain, ça touche à la liberté d'expression, ça m'est cher, mais je peux être aussi Charlie parce que je suis journaliste, donc j'y crois encore plus à la liberté d'expression, c'est ma vocation, c'est j'ai cette conviction chevillée au corps. Je suis encore plus Charlie parce que j'habite dans le quartier et que je passe devant tous les jours pour aller travailler. Je suis Charlie et je suis juif et je suis musulman parce que j'ai des amis musulmans et quand je vois un événement comme ça, j'ai peur des amalgames et j'ai peur pour mon ami, ou parce que j'ai des amis qui sont juifs ou que je connais Vincennes et que quand je vois ce qu'il se passe à l'hypercacher, ça me fait peur, etc. Tout le monde, il y a une émotion collective, on voit cette dimension collective, mais avant tout, cette émotion collective, elle est vécue à une échelle individuelle et chacun la modélise à sa manière. Et évidemment, ça veut dire aussi, il faut quand même pas l'oublier, qu'il y a des gens qui peuvent rester complètement indifférents à tout ça, en fait.
Quelque part, on a pu voir une sorte de stigmatisation de ces gens qui sont différents et qui ne se sentent pas concernés, enfin pas stigmatisation, c'est un peu fort, mais une mécompréhension, on se demande pourquoi ils veulent pas participer.
La vraie stigmatisation, je crois, elle est de ceux qui sont traversés par une autre émotion et qui les amène à réagir à l'inverse, en fait, parce qu'ils se sentent stigmatisés, que pour plein de raisons, en fait, par provocation aussi, bon, peuvent vouloir dire comme Dieudonné, je suis Charlie Koulibaly, presque pour plaisir d'un bon mot, ou dire je suis terroriste, bon, pour prendre l'exemple, le cas de ce petit garçon de 8 ans à Nice qui dit ça sans trop savoir ce qu'il dit à ce moment là certaines, faudrait voir la situation en classe, voilà, une réaction bravache, etc. Bon, on s'est focalisé sur ces gens là finalement, les gens qui sont venus dire je ne suis pas Charlie. Bon. Mais entre les deux, il y a quand même, je pense, encore beaucoup de Français qui ont suivi ça comme ils auraient pu suivre autre chose, en fait, et qui se sont sentis ni vraiment Charlie, ni pas vraiment pas Charlie. Et voilà, il faut quand même imaginer qu'il y a des gens qui peuvent avoir, je sais pas, on peut s'imaginer des gens, ça existe encore, qui cultivent, qui s'occupent de leur ferme au fin fond de l'Auvergne, ils sont assez loin de Paris, imaginons loin de Clermont-Ferrand, enfin je caricature un petit peu, mais qui peuvent avoir, voilà, vu ça à la télévision, mais sans pour autant, voilà, vivre ça avec autant d'intensité qu'on peut vivre des gens dans des villes, à Paris comme dans des villes de province, parce que dans des villes on peut aussi se sentir plus directement concerné, parce que voilà, il y a des transports en commun, s'il y a du terrorisme, etc. Bon, donc voilà, il faut vraiment pas s'imaginer que on a 66 millions, parce qu'on a 4 millions de manifestants, ça veut dire qu'on a derrière 66 millions de Français qui sont tous portés par l'émotion collective. Je pense que c'est pas vrai.
Une Marianne géante arrive place de la Nation. Un symbole, comme ces bougies, en l'honneur des 17 tués, parce que journalistes, parce que juifs, parce que policiers. En début de soirée, ils sont encore plusieurs milliers place de la Nation. Les messages sont forts. Solidarité, ensemble, contre le terrorisme.
Mais nous sommes là pour prouver aux gens que la France est un pays d'accueil et que nous sommes vraiment libres d'exprimer notre joie ou bien ce qu'on veut, en fait.
Ah, c'est vraiment un sentiment d'union, de sérénité, de calme. Et la lourdeur de l'ambiance, c'est tout le monde est uni, tout le monde est là. Quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, c'est impressionnant.
Dès le début de l'après-midi, par centaines de milliers, les gens affluent vers la place de la République. Rapidement, toutes les artères de l'est de Paris sont noires de monde.
Bah voilà ce que c'est la France. La France, c'est nous. C'est nous et c'est tout. C'est tout ce qu'on veut, être ensemble. On vous aime.
L'unité, avec ses images rares. Policiers et gendarmes unanimement applaudis sur leur passage pour leur travail, leur courage.
Ils sont présents, ils risquent leur vie, ils font le maximum pour aider la population, les gens qui sont pris en otage. Je crois qu'on ne peut que les remercier et leur être profondément reconnaissant.
Ou encore cette image parmi d'autres, un homme portant un drapeau palestinien et un autre un drapeau israélien s'embrassent. Deux belles rencontres ont lieu dans le cortège. On se tend la main.
Il y a des extrémistes, des lâches qu'ils ont fait là. Franchement, j'ai honte. Il faut que tous les musulmans ils se revoltent contre ces gens-là.
Il y a trois choses qu'on défend aujourd'hui. C'est la liberté d'expression avec Charlie. C'est la liberté de culte avec ce qui s'est passé à l'hypercachère. Et c'est aussi de défendre et d'honorer les forces de l'ordre qui font très bien leur travail et qui sont là pour nous protéger et qui ont aussi payé un lourd tribut.
Les athées, les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les juifs. Et je pouvais ajouter, allonger la liste. On est tous Charlie pour la liberté d'expression.
On est tous Charlie pour la liberté d'expression. Alors ce qui est hyper intéressant, c'est la question de la police. Parce que alors, la police, en général, quand même, surtout quand on manifeste la police, on leur jette plutôt des choses sur la tête plutôt que de les remercier, de les embrasser. Qu'est-ce qui s'est passé là?
Là, je crois que c'est assez simple. On a observé là, pour le coup, vraiment la même chose qu'aux États-Unis après le 11 septembre. C'est-à-dire que les policiers étant directement au cœur de l'événement, là, ils ont été pris pour cible, ils sont même devenus des symboles de solidarité, en fait. Après le 11 septembre, comme vous avez des policiers des pompiers qui, en faisant leur métier, sont partis au secours des personnes en proie aux incendies provoqués par les crashs des avions dans les tours, sont rentrés dans les tours pour les sauver, et ils sont morts quand les tours se sont effondrées, et vous avez... tout le peuple new-yorkais et les Américains qui ont pris en héros les policiers et les pompiers. Ils sont devenus les héros du 11 septembre. Et à ce titre, du coup, ils sont devenus des symboles. Dans les semaines qui ont suivi, on assistait aux mêmes choses. Des gens qui venaient les remercier, qui leur faisaient des accolades, qui venaient leur offrir des cadeaux, etc. Parce que voilà, ils avaient perdu beaucoup de leurs camarades dans l'attentat. Bon, et là, je pense qu'on a vu la même chose. C'est-à-dire que vu que des policiers ont été pris pour cible dans l'attentat, les policiers sont du coup devenus des héros. Peut-être pas vraiment des héros, mais en tout cas des symboles. Voilà, des symboles de solidarité. Là, on pouvait directement, en faisant l'accolade, à un policier montrer sa solidarité avec les victimes, en fait.
Cette solidarité, donc, c'est des jeux des personnes individuelles qui se sentent solidaires et qui tous ensemble sont dans une sorte d'un sentiment de solidarité, une unité collective. Comment on peut définir cette solidarité? Vous en avez parlé tout à l'heure, une différence entre une solidarité qui serait organique et une solidarité qui serait mécanique. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette opposition?
C'est simple, en fait. C'est la question du rapport entre le sentiment du jeu, le sentiment du nous. Et la distinction que donc pose Émile Durkheim, selon lui, on peut classer toutes les sociétés dans ces deux cas. C'est d'un côté les sociétés donc, qui qualifient, bon, c'est dans le contexte, c'est le 19e siècle, il parle de sociétés primitives, où il n'y a pas de différenciation sociale, en fait, où les individus sont déjà moins conscients de leur singularité individuelle. En fait, enfin, a priori, ils n'en sont pas conscients. Donc ce qui prime avant tout, c'est le sentiment du nous. D'où cette idée de solidarité mécanique. Si on s'en prend à la société, mécaniquement, tous les individus sont solidaires. Face à une attaque, tout le monde réagit. La solidarité organique, c'est celle qui est produite, dit-il, dans les sociétés modernes par la différenciation sociale. Donc le fait que les individus aient des en fait, formations différentes, des métiers différents, des rôles différents dans la société, et que du coup tout ça accentue leur sentiment du fait qu'ils ont une place unique dans la société, mais qu'ils sont tous en même temps complémentaires les uns des autres. Et donc c'est en ce sens-là qu'Émile Durkheim argumente pour dire que l'individualisme, le fait de se sentir un individu singulier, différent des autres, etc., le fait d'avoir sentiment du jeu qui prime sur le sentiment du nous, et pas, contrairement à ce qu'on croit bien souvent, un égoïsme qui conduirait les gens à se détourner du collectif, du commun, à plus s'intéresser aux autres, mais juste produit une autre forme de solidarité. Solidarité qui est plus complexe, qui est moins mécanique, moins automatique, mais qui est pour autant quand même une forme de solidarité. Et donc, dans un moment comme celui qu'on vient d'observer, de vivre là en France, c'est ça qu'on voit, c'est un mélange, parce que c'est pas non plus une substitution de l'un à l'autre. Les sentiments d'appartenance, et surtout à des échelles restreintes, la famille par exemple, quand quelqu'un de notre famille est attaqué, notre réaction elle relève de la solidarité mécanique. Les réactions qui sont mues par un sentiment d'appartenance, local, par exemple appartenir à la ville de Paris, appartenir, se sentir parisien, se sentir français, tout ça, ça relève d'une forme de solidarité mécanique. Bon, le nationalisme cherche à rendre sa solidarité la plus mécanique possible, même si elle l'est pas, en effet, on le voit bien. Bon. Et donc là, on assiste à des moments où se mêlent à la fois des réactions par la solidarité mécanique, à la première personne du pluriel, nous, ce sentiment que je suis porté par un nous sommes tous concernés, je le suis aussi, mais en même temps, de la solidarité plus organique qui passe par le sentiment que je suis concerné pour des raisons personnelles, que moi j'ai une raison que les autres n'ont pas, d'être plus proche, plus touché, etc. Tout ça se mêle, rend les choses éminemment complexes et fait que cette émotion collective, évidemment quand on rentre dans les détails, elle est beaucoup moins simple, évidente à analyser qu'on l'imagine.
À vouloir chasser seul, qui viendra te chercher quand tu seras perdu, perclus au fond de l'eau, l'océan t'a jeté sous la proue des bateaux. Quand tu seras perdu, qui viendra te sauver? Quand le dernier des eaux qui restait t'a rongé ne sera qu'une idée dans le noir de ta peau qui viendra te dresser. Requin, baleine, massif et solitaire, après une vie entière passée entre deux eaux, requin, baleine, qui viendra pour te faire enfin joindre la terre sans joindre le troupeau. Quand tu seras reclus, coupé de ton écho, quand ta voix oubliée, vidée de tous ces mots, ne sera plus qu'un cri qui l'ont pour t'écouter, qui pour dire où tu es, nous dit où tu seras, si ne nous reste de toi que l'écume dans ton sillage. Qui pour dire où tu es, nous dit où tu seras, si ne nous reste de toi que l'effluve de ton passage. Requin, tu baleines, massif et si solitaire, après une vie entière passée entre deux eaux, retiens-tu à l'air, qui viendra pour te faire enfin joindre la terre sans vendre ça, le troupeau. Retiens-tu à l'air, massif et si solitaire, après une vie entière passé entre deux eaux, requin, tu as l'air dit, qui viendra pour te faire enfin joindre la terre sans moindre.
C'était Pain Noir avec la chanson Requin Baleine.
Et vous?
Des habillés fous!
Et je redonne la parole tout de suite à Mélanie qui veut cuisiner de manière un peu plus intime notre invité avec l'entretien psy.
Tout à fait. Alors bon, on n'a pas beaucoup de temps pour vous cuisiner, Jérôme, mais on a quand même quelques questions à vous poser. La première, quand est-ce que vous avez ressenti votre première émotion collective?
Ma première émotion collective Je ne sais pas.
C'est pas facile comme question.
C'est vrai que c'est une question.
Je ne sais pas, parce que ce que je peux dire par contre, c'est que je me souviens, la première émotion qui m'a relié, je dirais, à un événement public, je crois que ça doit être l'attentat à Saint-Michel, le 25 juillet 95. Ouais. Mais je l'ai vécu sur un mode individuel, parce que je suis né un 25 juillet.
D'accord.
Et donc c'était le jour de mes 14
ans. Ça a gâché votre anniversaire.
C'était le jour de mes 14 ans. Ouais, ça l'a gâché, mais par exemple, du coup, je peux vous dire que le Concorde, il s'est crashé le 25 juillet 2000 ensuite.
D'accord.
Parce que c'était aussi un 25 juillet. Et ce jour-là, je me suis dit, je suis quand même vraiment mouillé avec la date d'anniversaire.
Il se passe quelque chose.
Mais à chaque fois, je l'ai vécu sur un mode individuel, pas vraiment collectif. Mais ça m'a relié, du coup. Pour l'attentat de Saint-Michel, il n'y a pas eu de vague d'émotions collectives. Pour le Concorde, par contre, un peu plus.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, au moment des attentats contre Charlie Hebdo, à part vous dire, oulala, je vais avoir du travail ces prochaines semaines?
Je vais être parfaitement honnête avec vous. En fait, deux choses. C'est-à-dire que j'avais soutenu ma thèse il n'y a pas longtemps, et à la soutenance, bon, vu le contexte, j'avais dit que j'espérais que l'actualité en France ne m'amènerait pas à me remettre au travail de sitôt. Bon. Et moi, j'étais en classe, donc le matin, j'étais avec mes élèves de première au lycée quand les événements ont eu lieu. Et mes élèves m'ont dit, bon monsieur, il y a un attentat et il y a 17 morts. Et bon, ils ne savaient pas trop de quoi ils me parlaient, ils étaient avec leur smartphone. Bon. Et moi, j'ai une réaction qu'à posteriori, je qualifierais d'assez, enfin de franchement étrange. J'ai vraiment réagi en faisant, ah oui, bon, 17 morts. C'est-à-dire que j'ai tellement travaillé sur le 11 septembre et sur le 11 mars, 3000 morts en 91. J'ai dit, ah, que 17 morts. Bon, enfin, que 17 morts, non, pardon, 12, parce que c'était Charlie Hebdo. Ils me disaient, voilà, on parle de 10 morts, 10, 11, on ne sait pas trop. Bon, moi, j'ai réagi en disant, ah, une dizaine de morts. Bon, je réalisais pas qui était mort, je ne comprenais pas, il m'avait pas dit que c'était les dessinateurs, donc j'ai dit oui, bon d'accord, on continue le travail. Donc on a fait un cours pendant deux heures, et c'est en sortant que j'ai commencé à voir, ben là, moi aussi, les gens qui m'ont appelé, les SMS, des gens me disant, Jérôme, tu disais, voilà, à ta soutenance que tu ne voulais pas te remettre au travail d'aussitôt, et bon voilà.
Bah ça y est.
Exactement, et après je suis parti là-dedans, et du coup les réflexes professionnels ont repris le dessus, et j'ai commencé à observer ce qui se passait, la réaction, et je fais mon travail.
D'accord. Est-ce que dans toutes les réactions que vous avez pu lire, voir, pour les différents attentats et donc sur lesquels vous avez travaillé pour votre thèse, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué particulièrement et si oui, laquelle ?
Ouais, bien sûr. Pour le coup, c'est pas un secret parce que, je le dis dans ma thèse, parce que pour analyser les réactions des gens aux attentats, il fallait d'abord que j'analyse mes propres réactions. Si j'ai travaillé là-dessus, c'est peut-être déjà pour ce que je disais à l'instant, c'est que j'ai été marqué par l'attentat de Saint-Michel plus que l'autre. Je voulais un peu essayer de comprendre ça, et ça relève de la sociologie autant que du psy. Du psy parce que, voilà, c'est ce sentiment individuel, mais aussi de la sociologie. Qu'est-ce qui fait qu'on est aussi attaché à cette date d'anniversaire dans les sociétés contemporaines, justement, parce qu'on est très conscient de sa singularité. On s'en ficherait de la date d'anniversaire. Au Moyen-Âge, on retenait pas la date d'anniversaire de naissance des gens. Donc, ça aurait pas eu de sens de me dire, ah là là, ça a lieu le jour de mon anniversaire, et donc voilà. Donc ça m'intéressait. Et puis, le 11 mars 2004, à Madrid, l'attentat m'avait particulièrement touché, parce que mon père a vécu à Madrid. Moi-même, j'y étais un an avant. Mars 2003, j'avais visité Atocha. J'avais dans ma classe à l'époque une Espagnole qui était préparée à l'agrégation avec moi et qui avait de la famille à Madrid. Donc on est allé ensemble à la manifestation face à l'ambassade d'Espagne à Paris. Et voilà, le fait d'avoir vécu tout ça m'avait donné envie de travailler là-dessus. Et puis il y avait évidemment le fait aussi que j'appartiens à la génération, on va dire 11 septembre. Moi j'ai vécu le 11 septembre voilà, à l'âge charnière. À l'époque, je rentrais à l'école normale supérieure, c'est le jour de ma rentrée, donc là aussi ça m'a marqué. Et puis j'avais de la famille à New York au moment des attentats. Donc pour toutes ces raisons-là, voilà, j'ai travaillé là-dessus.
D'accord. Bien, merci beaucoup Anaïs, il est temps de dévoiler qui est notre invité.
Voilà, donc notre invité est Jérôme Truc, qui est enseignant de sciences économiques et sociales au lycée Paul Doumer à Le Perreux-sur-Marne et titulaire d'un doctorat en sociologie de l'EHESS et qui a donc travaillé sur, peut-être vous pouvez me donner le titre exact
de le titre de la thèse, c'est le 11 septembre européen. Le sous-titre, c'est la sensibilité morale des Européens à l'épreuve des attentats du 11 septembre 2001, du 11 mars 2004 et du 7 juillet 2005.
Est-ce qu'il y a des actualités qui arrivent, une publication de cette thèse ou d'autres choses ?
Il y a... Je suis en train de m'occuper, il n'y a pas encore d'éditeur, mais je suis en train de m'occuper de retravailler cette thèse pour en faire vraisemblablement deux livres, en fait, que j'espère publier le plus rapidement possible.
Ok, bien, merci beaucoup. Merci Mélanie d'avoir animé cette émission avec moi. On se retrouve dans
merci un... à Charlène.
Oui, merci à Charlène qui a réalisé ce soir. Et donc nous, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Déshabillez-moi.